La Maison des sciences de l'Homme Val-de-Loire s'associe à Radio Campus Tours pour donner une fois par mois la parole à un acteur de la recherche en sciences humaines et sociales dans son émission La Méridienne.
Structure fédérative des équipes de recherche en sciences humaines et sociales des universités de Tours et d'Orléans avec le CNRS, la MSH a pour vocation de favoriser les échanges interdisciplinaires et soutenir les projets émergents.
En appui à la recherche, son atelier numérique offre un panel de services pour accompagner chercheurs et doctorants de l'élaboration à la valorisation de leurs projets.
Pour plus d'informations, consultez le site internet www.msh-vdl.fr.
Une nouvelle émission, La Méridienne, avec une chercheuse de la MSH. Bonjour Catherine Pelage.
Bonjour.
Alors Catherine Pelage, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et aujourd'hui, vous représentez le laboratoire Rémelis, je crois, d'Orléans.
Oui, tout à fait.
Alors, est-ce que vous voulez nous expliquer, déjà, vous, qui êtes-vous, et puis quel est ce laboratoire?
D'accord. Donc, écoutez, je vous remercie d'abord de m'avoir convié à cette émission. Je suis Catherine Pelage, je suis maître de conférence au sein du département d'espagnol de l'Université d'Orléans, et je travaille dans le laboratoire Rémelis. Donc, mes recherches ont tout d'abord porté sur le Chili. J'ai fait une thèse de doctorat sur les écrivaines chiliennes du XXe siècle, en travaillant sur les notions de marginalisation et transgression chez ces romancières chiliennes. Et par la suite, je me suis orientée vers l'étude de la République dominicaine, de la littérature, de la culture de République dominicaine. Et il y a un an, j'ai soutenu à l'Université d'Orléans une habilitation à diriger des recherches qui portait sur la littérature chilienne et la littérature dominicaine très contemporaine. Alors, en ce qui concerne le laboratoire Rémelis, qui est vraiment un laboratoire très porteur au niveau de la recherche et très dynamique, c'est un laboratoire pluridisciplinaire de l'Université d'Orléans qui réunit des chercheurs qui sont spécialistes de langue, littérature, civilisation, art, culture, de façon plus générale, de différentes aires linguistiques. Il y a des chercheurs qui travaillent sur les domaines anglophones, hispanophones, sur le Japon, sur les domaines francophones également. Et c'est un laboratoire qui explore en particulier les sujets des réceptions et transmissions de littérature et de culture en mutation.
Là, on a l'impression, en écoutant cette présentation, que vous êtes intéressée par les figures féminines fortes aussi.
Oui, tout à fait. Oui, j'ai été, dès mes années en fait, d'étudiante, j'ai été très intéressée par la littérature écrite par les femmes également dans l'histoire, de l'Amérique latine tout particulièrement, et j'ai constamment été frappée aussi par le fait de constater à quel point les femmes écrivains et les figures historiques féminines étaient trop souvent laissées dans l'oubli. Donc mon travail de recherche s'attelle aussi à faire émerger des auteurs ou des figures historiques féminines qui ne sont pas, à mon avis, mises suffisamment en valeur.
Alors c'est une question un peu tarte à la crème, mais est-ce qu'il y a, à votre avis, une des spécificités d'écriture féminine? Est-ce que ça existe, une écriture féminine, ou non?
Là, c'est une question qui est très difficile à répondre. Je pense que quand j'ai fait ma thèse, j'avais des idées beaucoup plus tranchées sur la question que maintenant. Je pense véritablement que ce qui est intéressant dans l'écriture des femmes, c'est l'originalité de l'écriture qu'elles mettent en œuvre. Mais j'avoue que j'ai du mal à définir ce qu'est une écriture féminine, parce que j'ai toujours l'impression qu'à partir du moment où on essaie de définir ce qu'est l'écriture des femmes, on limite finalement cette écriture en l'enfermant dans des schémas, en la réduisant par exemple à une écriture du corps. C'est une dimension qui peut être présente, mais il n'y a pas que ça, une écriture liée à la maternité, au cycle de la vie, etc., mais il n'y a pas que ça non plus. Donc véritablement, ce qui m'intéresse dans les écritures des femmes, c'est de mettre en avant l'originalité des démarches de chacune des écrivaines et de les étudier également dans leur contexte pour faire émerger éventuellement la situation de marginalisation dans laquelle elles se sont trouvées et pour contribuer à porter finalement leur travail.
Est-ce qu'il y a peut-être alors une façon de dire plutôt qu'au lieu d'écrire une écriture de femme, une écriture peut-être de personnes peut-être marginalisées d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'on pourrait dire plutôt un groupe d'auteurs marginalisés, soit parce que la génétique fait que ce sont des femmes, ou alors parce qu'elles sont dans, ils ou elles sont dans un groupe social qui est sous-représenté? Est-ce que c'est plutôt ça qu'il faut chercher, des correspondances de cet ordre-là, plutôt que de dire c'est elle écrit comme ça parce que c'est une femme?
Oui, tout à fait. C'est étudier effectivement les auteurs dans leur contexte, les auteurs dans le contexte de l'émergence de leurs œuvres. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est d'étudier aussi l'audace qu'on remarque chez ces auteurs pour rompre effectivement des barrières qui très souvent leur ont été imposées. Mais en travaillant également sur la littérature très contemporaine, j'ai travaillé en particulier tout récemment sur deux auteurs, Rita Indiana et Jayan Dujar, qui sont des auteurs chiliens très contemporains. Je me suis rendu qui sont nés la même année, qui ont des trajectoires de vie un peu semblables. Je me suis rendu compte à quel point leur démarche était finalement très très similaire, et leur proposition d'écriture également. Donc je pense, et c'est aussi quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir en travaillant sur la République dominicaine, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'écrivains dominicains contemporains, aussi bien hommes que femmes, qui se livrent à une critique des relations de genre en République dominicaine, à une critique de la masculinité, qui élaborent toutes sortes d'esthétiques qui rompent des schémas. Donc effectivement, je pense qu'on est aussi sur un territoire littéraire qui évolue constamment. Et ce que je vois en République dominicaine aussi concrètement, c'est à quel point le travail des femmes écrivains et celui des hommes écrivains se rejoint dans certaines luttes et certaines volontés aussi de changer des schémas.
Alors, est-ce que vous voulez spécifier ces schémas? Qu'est-ce que ça a de particulier d'être un homme en République dominicaine?
Alors justement, on va être amené à reparler de ce sujet, mais il est vrai que en République dominicaine, la société a été marquée par des schémas donc patriarcaux qui ont été très ancré aussi du fait de la dictature de Trujillo, donc qui a duré de 1930 à 1961 et qui a véritablement contribué à ancrer de façon très durable des schémas de domination masculine. Et donc je pense qu'en République dominicaine actuellement, il y a de la part des jeunes artistes une volonté de faire évoluer les schémas de genre, de sortir de schémas qui sont empreints de machisme et de faire évoluer également la société.
Alors si vous êtes là aujourd'hui, Catherine Pelage, c'est pour parler spécifiquement du travail que vous faites autour des sœurs Mirabal. Alors, qui sont-elles ?
Alors, les sœurs Mirabal sont considérées en République dominicaine comme trois héroïnes nationales. Alors, ce sont trois sœurs qui sont nées en République dominicaine et qui ont grandi sous la dictature de Trujillo. Alors, je parlais de Trujillo tout à l'heure, qui effectivement a gouverné le pays de 1930 à 1961. Il est arrivé au pouvoir à la suite d'élections frauduleuses et a immédiatement instauré un régime de terreur en République dominicaine. Un régime de terreur qui s'est marqué par la mort de nombreux opposants, les assassinats politiques, et par une volonté aussi de rompre clairement les barrières entre la sphère publique et la sphère privée. C'est-à-dire, par exemple, que pendant la dictature de Trujillo, dans chaque maison, les Dominicains étaient obligés obligés d'avoir chez eux une plaque métallique qui disait « En esta casa Trujillo es el jefe », dans cette maison Trujillo est le chef. Donc il y avait véritablement cette rupture de... cette volonté de pouvoir absolu sur l'île, à tel point d'ailleurs qu'en 1936, la capitale Saint-Domingue a été débaptisée et est devenue Ciudad Trujillo, la ville Trujillo. Donc on est vraiment face à une dictature épouvantable, comme toutes les dictatures, mais qui a poussé à l'extrême finalement le pouvoir personnel. Dans ce contexte, c'est dans ce contexte que les sœurs Mirabal ont grandi. Et très tôt, elles ont été malheureusement en contact avec Trujillo. En particulier, donc Trujillo alliait donc un pouvoir politique absolument immense et, comme je le disais tout à l'heure, une dimension extrêmement machiste aussi de son régime. De même qu'il considérait qu'il était le chef de toutes les familles dominicaines, il considérait potentiellement qu'il était le mari de toutes les femmes dominicaines, etc. Il organisait régulièrement des bals dans lesquels étaient obligés de se rendre les habitants de qui étaient conviés à ces bals, et c'était également pour lui une façon de s'approcher des jeunes filles dont il voulait faire ses maîtresses. C'est ce qui s'est passé très clairement avec Minerva Mirabal. La famille de Minerva a été invitée à un bal par Trujillo, qui avait entendu parler de Minerva, qui était magnifique comme toutes les sœurs Mirabal. Et donc il a organisé un bal auquel s'est rendu Minerva et sa famille. Il a dansé avec Minerva, a commencé à être assez pressant auprès de Minerva, qui a rejeté ses avances. Et il semblerait, d'après les témoignages qu'il y ait eu également à cette occasion, qu'il y ait eu une dimension aussi politique de la conversation qu'il y a eu entre Minerva, qui était farouchement opposée au régime, et Trujillo. Ce qui veut dire concrètement que dès les premiers contacts entre la famille Mirabal et Trujillo, il y a eu une double dimension, qui était une dimension donc politique et une dimension de genre. D'autres invitations ont suivi à des bals, toujours avec la même intention de la part de Trujillo. Et jusqu'au moment où la famille Mirabal a quitté l'un des bals auxquels ils avaient été conviés, ce qui a été considéré comme un affront de la part de Trujillo, qui a commencé petit à petit une véritable persécution contre la famille Mirabal. Le père des sœurs Mirabal a été emprisonné peu de temps après ce bal duquel la famille était partie. Par la suite, Minerva a été emprisonnée également, et un véritable harcèlement politique, enfin une persécution politique s'est abattue sur la famille Mirabal. Parallèlement à toute cette violence qui s'est abattue sur les sœurs Mirabal, Minerva, qui était quelqu'un de très déterminé, a souhaité aller à Saint-Domingue pour faire des études de droit, avec toutes sortes de difficultés que lui posait le régime pour se réinscrire en fonction de son rejet de Trujillo et de ses orientations politiques dont on soupçonnait qu'elles n'étaient pas favorables au régime. Et les sœurs Mirabal, malgré toutes ces pressions, se sont lancées dans la constitution en 1959 d'un mouvement révolutionnaire d'opposition à Trujillo, qui est connu sous le nom du mouvement du 14 juin, el Movimiento 14 de Junio, qui avait pour but de renverser le régime de Trujillo. Les deux membres fondateurs de ce mouvement étaient Minerva Mirabal et son mari Manolo Tavares. Participait également de façon très active Maria Teresa, et la famille Mirabal était bien évidemment elle aussi dans la confidence et dans ce complot. Les maris de Minerva et Maria Teresa ont été emprisonnés par Trujillo, Et donc le 25 novembre 1960, alors que Maria Teresa et Minerva et Patria se rendaient en voiture à la prison pour rendre visite à leur mari, leur voiture a été interceptée. Elles ont été assassinées et la voiture a été précipitée dans un ravin en faisant croire, comme c'était la coutume pendant la dictature de Trujillo, qu'il s'agissait d'un accident de voiture. Donc le lendemain, dans la presse, était annoncée la mort des sœurs Mirabal dans un accident de voiture. Mais ce qui est très important dans le cas des sœurs Mirabal, c'est que véritablement, leur assassinat s'est produit au bout de 30 ans de dictature de Trujillo. Il y avait eu des mouvements de résistance constants contre Trujillo, mais qui n'avaient pas réussi à mettre fin au régime dictatorial. Et les accidents de voiture des opposants se répétaient, étaient annoncés, et plus personne n'y croyait. Mais l'assassinat des sœurs Mirabal a conduit véritablement à une indignation populaire, et tout le monde est d'accord pour dire que cet assassinat était la goutte qui a fait déborder le vase et a marqué véritablement le début de la fin du régime de Trujillo. Et effectivement, quelques mois plus tard, le 30 mai 1961, Trujillo était à son tour assassiné. Enfin, en République dominicaine, on ne dit pas assassiné, on dit ajusticiado. Donc la justice a été faite par son assassinat. Donc les sœurs Mirabal sont considérées actuellement comme des héroïnes nationales de la lutte contre la dictature de Trujillo.
Alors une question peut-être un peu étrange, mais cette idée du bal et de l'accident de voiture, est-ce qu'il y a des survivances dans le langage courant, en fait ? Est-ce qu'il y a des jeux de mots ou des expressions autour de « Ah, attention, on va t'inviter à un bal », est-ce qu'il y a des expressions comme ça dans la langue ?
Alors, à ma connaissance, non. Par contre, les pratiques qui avaient cours pendant la dictature de Trujillo sont très connues. Donc, ce sont des faits qui sont connus. Maintenant, je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu des expressions ou des jeux de mots autour de ces réalités qui sont vraiment perçues de façon extrêmement douloureuse. C'est peut-être pour ça aussi que finalement au niveau de la langue, il n'y a pas eu de création autour de ces faits.
Est-ce que ça pourrait être un motif qui revient aussi dans des œuvres littéraires, dans des œuvres cinématographiques, cette idée du bal, là il y a un bal, ou un accident de voiture un peu étrange, ça pourrait être un motif qui se répète ?
Non, alors il y a eu beaucoup d'œuvres consacrées aux sœurs Mirabal, où le bal, effectivement, ce bal est important. Il a pris une valeur aussi très particulière. Il y a eu beaucoup de versions qui ont circulé autour de ce bal. L'une des versions qui sont circulées, que j'ai entendues pendant longtemps avant d'avoir connaissance d'autres versions. Pendant longtemps, la version qui a circulé à propos de ce bal, c'est que Trujillo, qui adorait danser, hein, c'est pour ça qu'il faisait toujours des bals, il adorait le merengue en particulier, enfin bon, donc il créait des fêtes constamment. La version qui a circulé pendant longtemps, c'est que quand Trujillo avait été un peu trop pressant pendant le bal avec Minerva, elle l'avait giflé. Et donc c'est ça que j'ai entendu pendant longtemps. Mais Dédé Mirabal, la quatrième des sœurs Mirabal qui n'était pas dans la voiture au moment de l'assassinat de ses sœurs et qui a survécu, raconte dans son autobiographie que jamais Minerva n'a donné de gifle au dictateur. Je pense que la conséquence aurait été immédiate, mais qu'elle lui a donné une forme de gifle psychologique en refusant ses avances. Donc ce thème du bal revient constamment dans les œuvres consacrées aux sœurs Mirabal, et l'idée aussi de dissimulation de la vérité.
Alors vous avez apporté ici un extrait, vous vouliez nous faire écouter un extrait d'une interview, alors qu'est-ce que c'est ?
Oui, les sœurs Mirabal, les trois sœurs Mirabal étaient mères de famille. Toutes, elles avaient des enfants qui avaient entre 1 an et 18 ans. et qui ont tous été élevés par la suite par leur grand-mère et par Dédé Mirabal, la sœur qui n'était pas dans la voiture au moment de l'assassinat. Ce sont des enfants qui vivent en République dominicaine, enfin qui sont adultes maintenant, et la fille de Minerva Mirabal, qui s'appelle elle aussi Minerva, mais que tout le monde connaît sous le nom de Minou Mirabal, qui est une femme politique. Elle a été sénatrice, etc. Elle a fondé récemment un parti qui s'appelle Opción Democrática. Donc c'est vraiment un personnage en vue de la vie politique dominicaine. Et un personnage très, très médiatique, qui est invité aussi au niveau international et qui a été invité en particulier au Chili un 25 novembre, donc jour international de lutte contre la violence faite aux femmes. La date du 25 novembre a été choisie en hommage aux sœurs Mirabal, à la date de la mort des sœurs Mirabal. Et elle explique à la journaliste chilienne d'où vient le nom de las mariposas, les papillons qu'on entend systématiquement associés aux sœurs Mirabal.
Alors nous écoutons un extrait de cette interview.
Bueno, el nombre viene del nombre de guerra de Minerva, que cuando ella estaba en el movimiento clandestino contra la dictadura, el nombre que escogió fue el de Mariposa. Y luego su hermana pequeña, María Teresa, que tenía 25 años cuando la asesinaron, entonces le pusieron Mariposa 2. De modo que en la República Dominicana todo el mundo las conoce desde siempre como las mariposas, se fue extendiendo y el símbolo de las mariposas se ha convertido entonces en símbolo también de esa lucha, porque ellas eran las hermanas Mirabal, las mariposas, se han escrito muchos libros sobre ese tema con ese nombre, que han sido publicados en muchos idiomas, en muchos países, y me parece muy apropiado porque la mariposa es no solamente signo de libertad, sino de transformación, de capacidad de transformación, esa evolución de empezar de una manera y terminar quizás como la más bella imagen de cualquier jardín, ¿no?
Que de libertad.
Y de la libertad, del colorido, de la naturaleza, de la belleza, de todo eso, ¿no? Y entonces se relaciona la imagen con las mujeres.
¿Y cómo evalúa usted?
Alors, ¿qué dice Minou Tavares? Ah, Mirabal. Excusez-moi, je suis pas mieux. Alors, que disait-elle?
Alors, Minou Tavares Mirabal parlait du nom sous lequel on connaît les sœurs Mirabal, le nom de las mariposas, les papillons, qui était le nom qu'utilisait Minerva Maria Teresa dans leur implication dans la lutte clandestine. Elles étaient connues comme las mariposas, et la mariposa pour Minerva, mariposa dos, nous explique le Minou Mirabal pour Maria Teresa. Elle explique à quel point ce nom de mariposas, papillon, lui semble tout à fait pertinent parce qu'il symbolise déjà la lutte et la lutte clandestine qu'ont mené les sœurs Mirabal, et elle explique à quel point le papillon est un symbole de liberté, de transformation, de capacité de transformation, et elle parle également du papillon comme symbole de liberté, de couleur, de beauté, et par conséquent comme un élément qui symbolise de façon tout à fait pertinente la lutte des sœurs Mirabal.
Alors je reprends ma question de tout à l'heure, est-ce que ça, pour le coup, le papillon, c'est un motif qu'on retrouve peut-être plus que le bal ou des choses moins porteuses et heureuses?
Alors le papillon se retrouve, mais en tout cas, là aussi je vous parle à ma connaissance, toujours associé aux sœurs Mirabal. comme si véritablement le papillon était associé aux sœurs Mirawal. Donc on retrouve le papillon dans les ouvrages qui leur sont consacrés, dans les poèmes qui leur sont consacrés, sur la vidéo aussi où intervient Minou Mirawal, on voit qu'elle porte elle aussi une broche en forme de papillon. J'ai eu la chance de m'entretenir avec elle cet été en République Dominicaine. Dans son bureau, il y a aussi toutes sortes d'objets qui représentent des papillons. De la même façon, j'ai eu la chance aussi de m'entretenir cet été avec la directrice du musée de la résistance dominicaine à Saint-Domingue, et qui a consacré une grande salle aux sœurs Mirawal, et elle aussi dans son bureau a des symboles de papillons. Donc c'est un symbole qui est très présent, mais j'ai l'impression, en tout cas à chaque fois que je l'ai vu, il était associé de façon très directe aux sœurs Mirawal et pas réutilisé pour dans d'autres contextes ou de façon allusive. C'est toujours très direct, très lié à elles.
Alors peut-être aussi parce que c'est quand même une histoire récente. Alors peut-être que c'est que dans peut-être 50 ans, ce sera différent, mais là c'est peut-être parce que c'est récent.
C'est une histoire extrêmement récente. C'est une histoire très récente. Effectivement, la fin de la dictature de Trujillo, c'était en 1961. Enfin, la mort de Trujillo en 1961. La transition démocratique a été très, très, très chaotique. Mais on parle d'une histoire qui, effectivement, est très récente, hein, qui a une soixantaine d'années. Et voilà, qui a une soixantaine d'années. Et donc, effectivement, oui, il est tout à fait possible que les symboles évoluent, soient récupérés, mais pour l'instant, ils sont vraiment ancrés dans l'histoire des sœurs Mirawal.
Alors, ça pourrait être quoi? Peut-être j'imagine, quelque chose, un mouvement féministe, peut-être, qui pourrait s'emparer de ces figures des sœurs Mirawal et du papillon, ça peut être?
Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, ce sont des personnages qui sont véritablement emblématiques, qui ont emblématiques d'une lutte donc politique menée par des femmes, d'un mouvement, le mouvement 14 juin, auquel se sont associées des femmes qui étaient mères de famille, qui vivaient dans une société qui était très traditionnelle et qui ont qui se sont impliqués en connaissant les dangers de leur implication dans la lutte contre le dictateur. Et c'est vrai que ce sont des images très fortes. Et c'est pour ça aussi que dès 1981, lors d'un congrès de féministes qui avait été organisé en Colombie, la délégation dominicaine a proposé les sœurs Mirawal comme symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, dès 1981 est née l'idée que c'était véritablement des personnages emblématiques et des personnages qui, effectivement, représentaient l'implication de femmes dans des luttes. Et c'est à partir de ce congrès féministe de 1981 et à partir de la ténacité finalement de la délégation dominicaine et relayée par d'autres personnages féministes que de fil en aiguille l'ONU a adopté le 25 novembre comme journée internationale contre les violences faites aux femmes. Donc effectivement, je pense que ce sont des figures féminines qui sont importantes maintenant, mais qui pourront continuer, enfin qui continueront à mon avis à marquer à marquer des luttes.
Et alors auprès des jeunes femmes, des petites filles dans son pays, est-ce que les sœurs Mirawal sont perçues comme un modèle positif? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce qu'on joue à être les sœurs Mirawal?
Alors, il y a énormément de... Donc, les sœurs Mirawal sont très connues. Et il y a, depuis les années 2000 en particulier, une volonté de faire connaître aux jeunes filles bien sûr, mais aux jeunes en général, l'histoire de la dictature de Trujillo et l'histoire des sœurs Mirawal. En particulier, il y a un musée qui est donc le musée La Casa Museo de las Hermanas Mirabal, qui est situé dans la maison qu'occupaient les sœurs Mirabal. C'est la maison dans laquelle vivaient les sœurs Mirabal lorsqu'elles étaient enfants, dans lesquelles sont conservés les objets des sœurs Mirabal, les vêtements des sœurs Mirabal, et également des éléments qui sont extrêmement émouvants. Par exemple, Maria Teresa avait des cheveux très longs et une tresse qui était extrêmement longue. Et dans la Casa Museo des sœurs Mirabal est conservée la tresse que portait Maria Teresa. Sa mère a coupé ses cheveux au moment de sa mort et avant l'enterrement. Et cette tresse a été conservée religieusement dans la Casa Museo. Et il y a eu véritablement une volonté. De faire connaître aux jeunes dominicains l'histoire des sœurs Mirabal. Donc il y a de façon extrêmement suivie des groupes scolaires qui viennent visiter la Casa Museo de las Hermanas Mirabal. Quand la dernière des sœurs Mirabal, Dédé Mirabal, vivait encore, elle mettait un point d'honneur à être présente donc dans la maison et à accueillir les groupes pour leur raconter l'histoire des sœurs Mirabal. Et elle raconte à plusieurs reprises que la question que lui posaient régulièrement les collégiens, c'était pourquoi est-ce que vous n'avez pas été tués vous aussi le 25 novembre ? Et elle répondait toujours qu'elle avait survécu pour raconter ce qui s'était passé. Donc il y a véritablement un gros travail qui a été fait de mémoire auprès des jeunes, avec la Casa Museo de las Hermanas Mirabal, également avec le musée de la résistance à Trujillo, qui est lui à Saint-Domingue, et qui accueille beaucoup de groupes, de collégiens, lycéens, d'étudiants qui retracent l'histoire de la dictature de Trujillo, l'ensemble des mouvements de résistance à Trujillo, et qui a une immense salle consacrée aux sœurs Mirabal où les papillons sont très présents et où il y a un hologramme qui représente Minerva Mirabal et qui s'adresse aux jeunes générations pour leur raconter à quel point il est important de préserver la liberté, de lutter pour la démocratie. Donc je pense que effectivement ce sont des symboles forts en République dominicaine, avec une volonté véritablement que la jeunesse n'oublie pas ce qui s'est passé, mais effectivement pour les jeunes filles, c'est aussi des personnages qui prennent une importance peut-être différente du fait que la violence dont elles ont été victimes est à la fois une violence politique et une violence de genre.
Alors vous avez apporté également de la musique, et oui, particulièrement une chanson qui, oui, est consacrée à ses sœurs. Alors qu'est-ce que vous aimeriez en dire avant qu'on l'écoute ?
Que c'est une chanson qu'on va écouter, qui a une certaine solennité, qui est une chanson très connue à propos des sœurs Mirabal, et qui montre véritablement la dimension symbolique des sœurs Mirabal, et qui s'inscrit dans une longue liste de productions artistiques qui sont consacrées aux sœurs Mirabal. Chansons, poèmes, romans, films, séries télévisées, etc. Donc, qui montrent la volonté de maintenir vivante leur mémoire et de leur rendre hommage.
Fieles a los tres esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego en un caballo de hierro. Y fue esa noche la muerte, el jinete era el tirano, música, tambor.
Catherine Pelage, qui est cette voix qui chante les sœurs Mirabal et que dit-elle ?
Alors, en ce qui concerne cette chanson, c'est une chanson qui est particulièrement forte parce qu'elle est centrée sur le moment de l'assassinat des sœurs Mirabal. Donc, elle raconte les circonstances de la mort des sœurs Mirabal qui allaient rendre visite au mari de... Minerva, Patria Teresa, comment elles ont été tuées, comment elles ont été précipitées, comment la voiture a été précipitée dans un ravin. Mais ce qui est intéressant également dans cette chanson, c'est que la chanson dit « levantadas para siempre », hein, elles levées pour toujours, elles sont tombées pour se relever aussitôt, ce qui est une référence aussi à une citation très célèbre de Minerva. Minerva, à qui son entourage disait de faire attention, lui disait qu'elle était en danger, qu'elles étaient en danger, et Minerva disait de toute façon, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Hein, si on me tue, je sortirai les bras de ma tombe et je serai plus forte. Et donc cette référence à le verbe levantar, c'est se lever, hein, qui revient, est aussi une référence à cette citation de Minerva et l'idée de cette mort qui a été très très forte en répercussion, en accélérant aussi la chute du régime, et puis avec tout ce travail de mémoire et de lutte qui s'est organisée aussi autour de cet assassinat.
Et qui est Sonia Sylvestre ?
Alors c'est une chanteuse, alors pour être tout à fait honnête, mais c'est ça qui est intéressant, je connais parfaitement la chanson, son interprète beaucoup moins, ce qui est révélateur aussi de la force de la chanson qui finalement vit par elle-même, qui a été énormément reprise aussi par d'autres interprètes, donc voilà, une voix en tout cas qui rend hommage à ses sœurs et qui fait circuler aussi leur mémoire.
Alors Catherine Pelage, comment on fait un travail de recherche à partir de ces données historiques ? Comment on transforme ça en travail de recherche ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Comment on s'y prend ? Comment on fait ? Comment on finance son travail aussi ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ?
Oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne les sœurs Mirabal, j'ai déjà réalisé quelques travaux de recherche sur elles et j'ai un projet de recherche également. Donc, en ce qui concerne les travaux de recherche que j'ai réalisés jusqu'à présent sur les sœurs Mirabal, j'ai commencé par étudier, parce que ce qui m'intéresse beaucoup sur les sœurs Mirabal, c'est donc d'une part leur histoire et d'autre part la façon dont elles ont été reprises dans des œuvres artistiques qui continuent à les faire vivre. Et le premier travail de recherche que j'ai effectué sur les sœurs Mirabal était à propos d'une romancière dominicaine, mais qui vit aux États-Unis et qui écrit en anglais, Julia Alvarez, qui a écrit en 1994, depuis les États-Unis et en anglais toujours, un roman qui a eu énormément de succès, qui a été traduit en français sous le titre de « Au temps des papillons ». donc de nouveau hein, ce motif des papillons, et qui raconte l'histoire des sœurs Mirabal. Alors c'était un travail qui m'a beaucoup intéressée, que je menais dans le cadre d'un projet Rémélis, d'un colloque que nous avions organisé avec une collègue, Françoise Morcillo, sur la littérature et écrire dans une autre langue, à propos des auteurs qui écrivent dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Et le travail de Julia Álvarez s'inscrivait dans cette réflexion de cet auteur dont la langue maternelle est l'espagnol, qui écrivait en anglais. Et ce que j'étudiais, c'est comment, depuis la langue anglaise, Julia Álvarez réexplorait, revisitait l'histoire des sœurs Mirabal. Donc c'était cette réception de l'histoire des sœurs Mirabal par une romancière très en vue, qui a beaucoup contribué d'ailleurs à faire connaître l'histoire des sœurs Mirabal aux États-Unis, puis en Amérique latine également. Donc c'était le premier travail de recherche que j'ai mené sur Julia Álvarez, mais qui m'amenait aux sœurs Mirabal. Le deuxième travail de recherche que j'ai mené à propos des sœurs Mirabal, c'était dans le cadre d'un autre colloque, lui aussi organisé dans le cadre de Rémélis, sur prologue et culture, qui s'interrogeait sur comment les prologues contribuent à la diffusion des œuvres. Parce que finalement, ce qui est en jeu à travers tout ça, c'est comment on fait circuler des œuvres, comment on fait circuler des histoires, comment on fait circuler des connaissances. Et à propos de ce colloque, j'ai travaillé sur les prologues de deux œuvres très particulières consacrées aux sœurs Mirabal. L'autobiographie qu'a écrit Dédé Mirabal, la quatrième des sœurs Mirabal, avec deux prologues, l'un de Julia Álvarez, la romancière dominicaine qui vit aux États-Unis dont je vous parlais, et l'autre de Dédé Mirabal. Et le deuxième ouvrage à propos duquel j'étudiais les prologues, c'était Mañana te escribiré otra vez, qui est un autre ouvrage bouleversant, qui veut dire donc demain je t'écrirai de nouveau, qui est un livre qui a été confectionné par Minou Mirabal, dont on a écouté l'interview tout à l'heure. Et Minerva Mirabal a eu beaucoup de mal à confectionner un livre à partir des lettres qu'échangeaient ses parents. Ses parents qui sont deux héros nationaux, donc Minerva Mirabal et Manolo Tavares, aussi un grand résistant de la lutte contre Trujillo. Elle avait chez elle toute la correspondance en fait qu'avaient échangé ses parents. Et jusqu'au moment où, dans son entourage, on lui a dit en gros que ses lettres étaient bien sûr un patrimoine familial, mais étaient aussi un patrimoine national. Elle a eu énormément de mal, mais elle a fini par confectionner un livre à partir de toutes les correspondances entre ses parents, depuis le moment où ils se sont connus jusqu'à vraiment les derniers instants. Et donc c'est un livre très bouleversant d'une part, très intéressant aussi dans les éléments qu'il donne, et qui a deux prologues. Le premier qui est écrit par la fille de Minerva Mirabal, Minou Mirabal, qui écrit à son tour une lettre à ses parents, en s'inscrivant finalement dans les correspondances qui sont mises en œuvre. Et un deuxième prologue qui est pris en charge par Michèle Bachelet, qui a été à deux reprises présidente du Chili, qui a travaillé à l'ONU pour les affaires donc des femmes plus particulièrement, qui est elle-même fille d'un homme qui a été victime de la dictature de Pinochet. Et donc j'étudiais dans ces prologues la façon dont ces prologues redéfinissent certaines notions, la notion d'héroïsme, etc. Et comment ces prologues portent les textes et portent leur diffusion. Donc c'était deux travaux très particuliers. À l'occasion de ces travaux, je me suis rendu compte également de la bibliographie qui existait à propos des sœurs Mirabal, de celles qui n'existaient pas non plus. Alors je me suis rendu compte qu'en France, aucun ouvrage scientifique ni de diffusion n'a été écrit à propos des sœurs Mirabal. On célèbre tous les ans le 25 novembre comme journée internationale contre la violence faite aux femmes. On célèbre indirectement les sœurs Mirabal sans le savoir. Et donc il y avait ce, je me suis rendu compte de ce manque de d'informations en France sur les sœurs Mirabal d'une part, et même dans les ouvrages qui ont été publiés sur les sœurs Mirabal. Donc il y a des ouvrages qui ont été publiés donc en République dominicaine ou depuis les États-Unis, pris en charge également par des chercheurs cubains. J'ai lu récemment un ouvrage très intéressant à ce propos, mais il me semble qu'il manque aussi un ouvrage qui récapitule véritablement la trajectoire des trois sœurs Mirabal, leur dimension historique, symbolique, leur trajectoire. Et c'est un projet de recherche que j'ai commencé tout récemment, mais qui s'inscrit dans le prolongement de projets de recherche que j'avais fait auparavant et que je vais mener. Et c'est quelque chose qui me fait très plaisir également, en collaboration avec une de mes anciennes étudiantes, qui est maintenant enseignante dans le secondaire, qui est passionnée par la République dominicaine. Elle avait fait son mémoire de master sur les sœurs Mirabal. On s'est vu cet été en République dominicaine, où elle avait voyagé pour découvrir la République dominicaine et commencer elle aussi son travail de recherche sur les sœurs Mirabal. Donc l'idée est véritablement de mener une recherche sur les sœurs Mirabal et d'élaborer un ouvrage qui permette de véritablement de bien les situer, de mettre en valeur également leur action, parce que les sœurs Mirabal ont tendance à être perçues comme des symboles, sans qu'on s'intéresse forcément de façon très précise à l'action politique concrète qu'elles ont eue. Et c'était effectivement des femmes et des femmes engagées politiquement qui ont eu également une action politique concrète. Donc c'est le projet qui nous occupe actuellement. Alors effectivement, en ce qui concerne ce projet, donc c'est un projet qui nécessite aussi beaucoup de travail de terrain, parce qu'on trouve peu de documents ici à propos des sœurs Mirabal. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on parle d'une histoire très récente, ce qui veut dire que il y a en République dominicaine des personnes qui sont directement liées à l'histoire des sœurs Mirabal, qu'on peut interviewer, enfin qui peuvent donner véritablement des éléments tout à fait passionnants en termes de passionnants et éclairants en ce qui concerne l'histoire des sœurs Mirabal. Et à ce propos, vous posiez également la question du financement. En ce qui concerne les financements des déplacements, j'ai eu la chance, et je tiens à remercier également, d'être régulièrement financée par le laboratoire Emelis pour des déplacements en République dominicaine, des séjours de recherche en République dominicaine, et cet été en particulier par la MSH. Qui avait ouvert un appel à projet pour une aide à la mobilité des enseignants-chercheurs, parce que c'est vrai, quand on travaille sur la République, quand on travaille sur la République dominicaine, on travaille sur un pays qui est éloigné géographiquement, donc on a véritablement je dois remercier véritablement aussi bien le laboratoire Emelis que la MSH pour les soutiens apportés en fait dans le cadre des recherches sur la République dominicaine, et puis là plus particulièrement ce projet sur les sœurs Mirabal.
Et alors aussi, pour que nos auditeurs se rendent compte, donc il y a évidemment ce travail de terrain dont vous venez de parler, donc aller à la rencontre des gens, noter des choses, enregistrer peut-être des voix, des témoignages, et après, mais j'imagine que quand on rentre ici à Orléans ou à Tours, mais il y a tout le travail de tri, d'organiser toute la matière qu'on trouve, et ça doit prendre énormément de temps. Comment on fait pour agencer toutes ces choses ?
Oui, ça prend énormément de temps, effectivement. Et effectivement, le travail de recherche que j'ai fait cet été a consisté véritablement à prendre toutes les informations que je pouvais en République dominicaine. Donc je suis revenue, mais comme à chaque fois que je vais en République dominicaine, avec des kilos de livres, de documents, avec toutes sortes d'informations que j'ai prises d'entretiens avec différentes personnes. Donc je suis revenue avec la matière qui était nécessaire pour réaliser ce projet sur les sœurs Mirabal. Ensuite, j'ai laissé passer un petit peu de temps, d'une part parce que la rentrée rentrée était très chargée, et d'autre part parce que je pense qu'il est toujours nécessaire aussi de prendre du recul sur beaucoup de plans aussi par rapport au... Surtout par rapport à un sujet comme celui sur les sœurs Mirabel, qui est également très, très, très bouleversant quand on se penche sur le sujet. Mais ensuite, effectivement, il y a tout le travail que nous sommes en train de réaliser, donc aussi bien... mon ancienne étudiante et collègue maintenant que moi-même, de lecture des ouvrages, de sélection des éléments qui nous semblent importants, de confrontation aussi des sources et de réflexion sur ce qui nous semble important de faire émerger finalement dans ce travail sur les sœurs Mirabel. Donc c'est un travail effectivement très patient, qui demande beaucoup de lecture, de réflexion, et c'était également un travail qui est marqué par l'échange, parce que moi je suis convaincue aussi que la recherche se fait beaucoup par les collaborations, les échanges, donc j'ai aussi beaucoup de dialogue avec des différents acteurs donc culturels ou universitaires dominicains à propos de ce sujet.
Alors c'est peut-être aussi parfois difficile pour les personnes qui ne sont pas dans une démarche de recherche de concevoir que peut-être quelque chose qui est impalpable, qui ne se voit pas, quand on réfléchit ça se voit pas, quand on échange, quand on discute, peut-être que c'est difficilement mesurable et quantifiable. Donc est-ce que c'est parfois difficile peut-être d'expliquer aux gens que si c'est du travail aussi, même si c'est pas matériel ?
Je pense que ce qui est difficile surtout, c'est d'expliquer ce qu'est la recherche en littérature, ou parce qu'effectivement, quand on parle de recherche, je pense que l'image que tout le monde a immédiatement est celle de la recherche scientifique, recherche médicale, etc. Et régulièrement, j'ai la question d'ailleurs, quand je dis que je suis enseignante chercheuse en littérature, donc effectivement, j'ai souvent des questions, ou d'ailleurs maintenant je prends les devants et j'explique moi-même. Mais c'est très abstrait. Mais effectivement, ce travail de recherche en littérature, en civilisation, sur les cultures, demande énormément de travail. Et c'est une façon effectivement de faire émerger de nouvelles réflexions ou de nouveaux, comme je le disais tout à l'heure, des personnages historiques qui sont méconnus alors qu'ils ont véritablement une dimension historique tout à fait importante au niveau national, régional et international. Donc oui, c'est beaucoup de travail et beaucoup de travail, et c'est pour ça aussi, je pense, qu'il est important de participer à des programmes qui ne sont pas seulement des programmes de colloques, mais de diffuser également les travaux ou les recherches qu'on fait dans d'autres canaux. C'est une façon aussi de permettre de comprendre ce qu'est la recherche, le travail de recherche, de recopilation de matériel, d'ouverture de nouvelles pistes.
Et d'ailleurs, à propos de valoriser ce travail, est-ce que vous imaginez une valorisation des contenus sonores, peut-être ? Si vous réalisez des entretiens, si vous enregistrez des voix, en fait, de gens qui vont malheureusement disparaître, du coup, comment est-ce que vous avez pensé à ça ? Peut-être faire un site où on pourra écouter les voix des gens, ou une valorisation radiophonique, ou que sais-je ?
Alors là, j'avoue que pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que j'ai envisagé, mais j'ai tout à fait conscience que ce travail sur les sœurs Mirabel, enfin l'ouvrage dont je vous parlais vraiment, qui va récapituler, expliquer, analyser la trajectoire des sœurs Mirabel, est un point de départ. Un point de départ qui est nécessaire, qui va être véritablement, que je conçois véritablement comme un élément à partir duquel on va construire d'autres recherches et à partir duquel on va élargir le travail sur les sœurs Mirabal. Donc pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que j'ai envisagé, mais ça pourrait être effectivement très intéressant. De façon à diffuser les voix des sœurs Mirabal, les voix des acteurs proches des sœurs Mirabal. Et oui, c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait intéressant. Et effectivement, il manque aussi sur Internet des sites qui pourraient être tout à fait porteurs pour comprendre et diffuser qui elles sont. Parce que finalement, je regardais aussi en préparant cette émission ce qu'on trouvait quand on rentre sur Internet 25 novembre. Alors je l'ai rentré en français, je l'ai rentré en espagnol, etc. Et j'ai très peu vu apparaître le nom des sœurs Mirabal. J'ai vu apparaître les actions qui sont menées et qui sont fondamentales hein, pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais les sœurs Mirabal, j'ai vu leur nom mentionné en une occasion. Sinon, dans d'autres cas, elles ne sont même pas mentionnées. Donc effectivement, le travail, vous avez raison, le travail de diffusion et de connaissance passe aussi par d'autres types de supports et pourquoi pas de sites, effectivement.
Parce que là, il y aurait un débouché peut-être tout trouvé pour valoriser des contenus sonores, c'est le site d'un musée de sœurs Mirabal, de dire bah, peut-être là on peut rendre accessible aussi aux gens à écouter en ligne ou des choses comme ça, de dire ah là vous pouvez écouter un entretien avec de telle personne et du coup pour les gens en plus qui peut-être chignent un peu à aller dans un musée ou alors sont à l'autre bout du monde, de dire ah bah tiens là en ligne je peux écouter quelque chose, ça c'est possible et je pense qu'il y a sûrement des radios aussi bien en République Dominicaine que peut-être France Culture ou autres qui seraient intéressées pour diffuser un documentaire sonore ou des choses comme ça.
Oui, tout à fait, d'autant que je pense en particulier au musée de la Résistance à Trujillo, le musée de la Résistance Dominicaine, mais qui est centré sur la dictature de Trujillo. C'est un musée qui est absolument impressionnant et dans lequel il y a énormément d'archives également et de chercheurs qui viennent faire des recherches sur la période de la dictature de Trujillo. Donc il y a une mine de documents et effectivement il pourrait être tout à fait intéressant de travailler en collaboration avec ce musée dans le cadre de diffusion d'une documentation qui est absolument éblouissante.
Ah, à bons entendeurs. Alors cette émission touche déjà à sa fin, Catherine Pélage. Alors peut-être voulez-vous rappeler un endroit où on peut suivre votre travail? Est-ce qu'il y a un site où on peut retrouver des choses?
Oui, alors il y a sur le site du laboratoire Remélis, il y a une page donc des membres un annuaire et puis avec les travaux des membres du laboratoire. Et puis de façon aussi peut-être, alors vous parliez d'Internet, etc. J'ai eu la chance et l'honneur aussi cet été d'être invitée à une émission de télévision en République Dominicaine sur El Canal 4. L'interview est disponible en ligne sur YouTube. Et c'était une interview qui parlait de mes travaux sur la littérature dominicaine et qui finissait aussi par une référence à ce projet sur les sœurs Mirabal. Pour lequel j'ai réuni toutes sortes de documentations cet été.
Et on va se quitter en musique puisque vous aviez choisi aussi un dernier morceau et c'était Antonio Morel. Alors avant qu'on lance ça, est-ce que vous voulez dire deux mots sur cette musique?
Oui, La Fiesta del Chivo. Alors La Fiesta del Chivo, c'est un merengue qui est une forme musicale typique de République Dominicaine, très joyeuse, très entraînante, mais la joie que dégage la musique n'entraîne pas forcément des paroles légères. Et en particulier, le merengue sur lequel va se clore cette émission, La Fiesta del Chivo, est un merengue qui a été écrit au moment de la mort de Trujillo. L'un des surnoms que donnaient les opposants au régime à Trujillo était El Chivo, le bouc. Et donc c'est une chanson très apparemment, enfin voilà, très très festive, qui parle de l'assassinat de Trujillo et par conséquent de la fin de la dictature. Et ce titre, la Fiesta El Chivo, ce titre, le Matalón al Chivo, a inspiré également le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa, qui a écrit un roman qui s'appelle La Fiesta del Chivo, qui a été traduit en français par La Fête au Bouc, qui parle de la dictature de Trujillo. Et le titre de Mario Vargas Llosa était directement inspiré de la chanson que nous allons écouter maintenant.
Merci Catherine Pellage.
Merci à vous.
Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad.
¡Ay María, María, María! ¡Canta y no llores! Porque cantando se arena de lindo, lindo corazón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se arena de lindo, lindo corazón. Del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Matan a Chapita en la carretera, matan a Chapita en la carretera. La mamá gritaba de esta manera. Matan a Chapita y no me lo dejaron ver.